Bonsoir. À ceux que je n'ai pas pu saluer, je vous embrasse chaleureusement. J'ai un message qui brûle dans mon cœur que je voudrais vous partager. C'est particulier comme sujet. En fait, ça fait un lien avec ce que les hommes ont vécu jeudi. Parce que jeudi, on a pris ce texte de Genèse que j'aimerais utiliser en introduction. Et ça concerne ce que Dieu dit de l'homme. Quand il a créé l'homme, la Bible nous dit « Dieu a créé l'homme et la femme à son image ». Quand il a voulu créer l'homme, il a voulu que son image soit sur eux par l'union qu'ils allaient former. C'est-à-dire l'homme et la femme, mâle, femelle, lorsqu'ils sont unis, ils forment l'image de Dieu. Lorsque l'homme et la femme sont unis, ils forment l'image de Dieu. Et en fait, je comprends, je partageais aux hommes que quand il y a une unité profonde, pas juste dans la chair, pour former une seule chair, avoir des enfants, mais une unité spirituelle, lorsque l'homme et la femme sont unis, ils forment l'image de Dieu. Et du coup, quand l'image de Dieu est formée, il y a une autorité spirituelle qui vient de cette unité. Une autorité pour bâtir quelque chose en tant que couple, une autorité sur les enfants, une autorité sur nos destinées, quand il y a l'unité. C'est pour ça que, toujours dans Genèse 2, il est dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Le mot « attaché », c'est « s'unira à sa femme ». Quand ils seront unis, ils formeront une seule chair. Ceci est repris dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui parle. Il dit c'est un mystère, il s'agit de Christ et l'Église, une unité spirituelle. Et lorsqu'on trouve cette unité spirituelle, ça forme l'image de Dieu. Parce qu'il nous a créés hommes et femmes, et lorsqu'ils sont unis, son image est reconstituée. C'est une réalité, une vérité spirituelle que j'aimerais qu'on explore. Et j'ai le sentiment, en explorant l'unité, qu'on rentre dans une sorte de lieu très saint. Je dis bien une sorte, quelque chose de mystérieux, quelque chose de profond, quelque chose de puissant, qu'est la Trinité, l'unité dans la diversité, mais qui forme une puissance spirituelle parce qu'ils sont un. Et Dieu veut nous apprendre à développer l'unité, à travailler à l'unité en tant que couple. Là, je parlais au niveau des hommes, mais je vais en parler ce soir en tant qu'Église. En tant qu'Église, formés ensemble parce qu'on apprend à travailler, à faire des efforts pour être un, et parce que nous y arrivons, par la grâce de Dieu, lorsqu'on y arrive, ça produit l'image de Dieu, ça forme l'image de Dieu. Et lorsque l'image se voit, lorsque cette image est reconstituée, spirituellement le diable le voit, le ciel le voit. Quand on est unis, le ciel le voit. Parce qu'il y a l'image de Dieu, l'image du Christ qui se voit. Et quand Dieu voit Christ, le ciel s'ouvre. Parce qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné dans le ciel comme sur la terre, si ce n'est le nom de... Waouh, est-ce que vous voulez prêcher avec moi ici ce soir? Il n'y a aucun nom qui nous a été donné dans le ciel comme sur la terre. Il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de... D'accord? Ce nom-là est un sésame qui ouvre le ciel. Quand Dieu voit l'image de Christ, partout il y a une unité spirituelle profonde, quand Dieu voit cette image reconstituée, parce que quand ils ont été créés, hommes et femmes, lorsqu'ils s'unissent réellement, et je le redis, ce n'est pas que sur le plan sexuel, lorsqu'ils s'unissent spirituellement, cette unité est forte et constitue l'image de Christ qui fait une ouverture dans le ciel. Quelque chose de particulier qui s'ouvre. Il n'y a que le nom de Jésus qui fait on va au Père, qu'on trouve la présence de Dieu, qu'on trouve son cœur, que nous sommes sauvés. Le nom, être en Jésus, être uni dans le Christ. Et du coup, je vais vous donner plusieurs témoignages, enfin, plusieurs versets bibliques qui nous parlent de la puissance de l'unité. Là, on est dans Genèse, juste après, je prends un texte, non, ah, c'est pas, c'est celui de Chroniques. Hein, c'est 2 Chroniques 5, 13. La Bible nous dit que à un moment donné, Salomon construit un temple, une maison pour Dieu, et il veut dédicacer cette maison. Et lorsqu'il dédicace cette maison, les uns et les autres sont dans une unité parfaite. Au moment où ils veulent adorer Dieu, le texte nous dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir leurs trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Quand ils se sont unis pour adorer, quand leurs cœurs se sont attachés, quand il y a eu un cœur à cœur, un unisson, quelque chose de spirituel qui s'est fait, Dieu a vu cela, a vu le Christ et il est descendu. Le ciel s'est ouvert et la présence de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée dans le lieu où ils se trouvaient. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau d'unité, de communion qui a déclenché quelque chose du ciel. Salomon a voulu consacrer la maison, Dieu a agréé cela, il est descendu. On retrouve la même chose dans les actes. Au niveau des actes, Jésus a dit aux disciples, attendez que le Saint-Esprit descende, ils ont attendu, et ils ont attendu dans l'unité. Le mot utilisé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, le jour de la Pentecôte. En ce moment-là, leur cœur était uni. Vous savez, le texte, le mot en grec, c'est « homotoumadom ». Et homotoumadom veut dire d'un même cœur, d'un même esprit exactement, d'un commun accord avec la même passion. Des cœurs se retrouvent ensemble, mais avec une passion forte, et ils attendent Dieu dans une communion. Ils attendent Dieu tous ensemble. Et il y a une unité spirituelle qui fait qu'à un moment donné, le Saint-Esprit descend. C'est exactement ce qui s'est passé pour Salomon dans le temple, parce qu'ils étaient unis dans l'adoration, là ils étaient unis dans la prière, dans l'oraison, dans la louange, ils cherchaient Dieu et leur cœur s'est uni. Il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais des cœurs unis à un moment donné, spirituellement, ça déclenche quelque chose dans le ciel et Dieu descend. Dieu descend. C'est comme irrésistible. Partout où on a compris ce mystère, on a la clé, et qu'on se met ensemble, et qu'on apprend à être ensemble, c'est pas virtuel, c'est pas être assis les uns à côté des autres, c'est même pas chanter des chants ensemble, c'est spirituellement devenir un. On va travailler à cela. C'est-à-dire, en fait, ça s'apprend. Il y a quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit, et puis nous, on doit le maintenir. On doit le maintenir, on doit le préserver. On va travailler à ce que nous soyons unis dans l'Esprit. Je vais distinguer une unité, qu'on pourrait parler de juste un accord, des compromis, quelque chose d'humain, quelque chose de travailler humainement à la force des poignets. Non, la bénédiction vient quand il y a une unité spirituelle. Quand en esprit nous sommes unis, quand nous apprenons à être unis dans l'esprit, quand nous apprenons à nous connecter spirituellement, à nous toucher, à nous rapprocher, et puis on sent qu'on est dans l'esprit, dans un même esprit, dans un même cœur. Quand on y arrive à ce niveau-là, il y a une mesure de présence de Dieu, de gloire, une mesure de révélation, il y a rien de pareil à cela. Et quand une église, dans une saison comme on est en train de vivre, on veut voir le ciel ouvert, c'est obligé que nous utilisions la clé de l'unité. Si on veut voir la gloire de Dieu s'intensifier, comme le ciel se déverser parmi nous, le Seigneur va attendre un niveau d'unité. Et il y a plusieurs niveaux d'unité. Et il va chercher, il va nous conduire, le Saint-Esprit va nous conduire à être un. Homo tumadom. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel, comme à un moment donné, parce qu'il y a cette unité. À un moment donné, il y a une percée. Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quand on est unis, cette unité fait que chacun, c'est pas juste une, deux personnes, c'est pas juste ce qui se passe sur l'estrade, c'est toute l'assemblée qui est en communion. Et le Saint-Esprit, quand les cœurs sont unis, vient et anime chacun des membres de l'Église. Il fait qu'on devient un corps, l'Esprit de Dieu anime un corps, et chacun des membres est rempli du Saint-Esprit, chacun des membres se connecte les uns aux autres, et ça c'est le postulat, c'est comme le prérequis avant que le Saint-Esprit soit répandu. Et quand il vient, il touche tout le monde, à cause de la communion. Parce que tout le monde est en communion, parce qu'on est tous ensemble, le Saint-Esprit vient et il anime, il touche tout le monde. C'est là où on veut aller. Une communion qui fasse que le Saint-Esprit descende. Alors, je voudrais passer du temps sur, mais qu'est-ce que l'unité de l'Esprit ? Juste ce texte de Éphésiens 4 qui dit, on va le lire là, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » L'unité dont il s'agit ici, c'est une unité qui est spirituelle. Ce n'est pas des affinités humaines, ce n'est pas être bien avec des gens, les apprécier pour leur personnalité, mais c'est les connaître dans l'esprit et laisser le Saint-Esprit créer une unité entre nous, telle que cette unité doit être maintenue. C'est un miracle, en fait. Le Saint-Esprit, nous sommes unis dans l'esprit. Parce que nous sommes unis dans l'esprit, nous, notre travail, c'est de le maintenir, de le préserver, de le soutenir, de tout faire pour que cette unité de l'esprit soit. Quand l'Église est unie dans l'esprit, le ciel s'ouvre, mais ça permet à agir, à impacter notre société comme on ne pourrait pas si jamais il n'y avait pas cette unité de l'esprit. Je ne parle pas de se mettre d'accord parce qu'on va se mettre autour d'une table et on va négocier. Je parle de chercher Dieu et d'ouvrir nos cœurs, de renoncer à nous, d'abandonner notre ego, notre opinion, le fait de vouloir avoir raison, et puis de laisser Dieu libérer l'esprit en nous qui va se mettre en communion avec les autres. C'est pourquoi, pour moi, se marier, quand il est dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Le « une seule chair », on dit « chair », ça nous trompe, parce qu'ils vont devenir d'abord un seul esprit. Ils sont unis dans l'esprit. Un mariage où il n'y a pas d'unité d'esprit, ils sont exposés aux attaques de l'ennemi. C'est d'abord en esprit. C'est d'abord prier ensemble. C'est d'abord écouter Dieu ensemble. Écoutez ce que je vais vous dire, c'est très important. Si nous ne sommes pas individuellement en communion avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être unis dans l'Esprit. Il nous faut être capables d'entendre la voix de Dieu, de communier avec le Saint-Esprit. Il faut que chaque individu, par exemple dans un couple, soit connecté au Saint-Esprit. C'est une unité dans l'Esprit. Le Saint-Esprit est en communion avec chacun des deux esprits. Et l'unité se crée parce que l'Esprit de Dieu est uni à un esprit et à l'autre. Et ensemble, c'est pour ça que la Bible dit « la corde à trois fils ne se rompt pas facilement ». C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une union entre deux personnes, mais le Saint-Esprit, c'est l'unité de l'Esprit. Il faut que chacun de nous soit en communion avec le Saint-Esprit, se soumettre au Saint-Esprit. Parce qu'on est soumis au Saint-Esprit, on peut être unis entre nous. Sans une unité au Saint-Esprit, sans une soumission au Saint-Esprit, sans une communion au Saint-Esprit, on ne peut pas être unis dans l'Esprit. L'unité dans l'Esprit, c'est parce que tout le monde aspire, soupire, se connecte. Et quand je suis connecté, à ce moment-là, je peux me mettre en communion avec les autres. Si je ne suis pas connecté au Saint-Esprit, la communion que je vais avoir, l'unité que je vais avoir, elle va être dans l'âme, elle va être dans des tas de choses, mais elle ne va pas être dans l'esprit. Il faut que chacun de nous soit dans l'esprit. Et quand on est dans l'esprit, on peut se connecter à l'autre. C'est le Saint-Esprit qui nous met en unité de pensée, de cœur, de projet, parce que chacun de nous aspire, soupire après la connexion au Saint-Esprit. Imaginez que chaque membre de l'Église, lorsqu'il vient au culte, est rempli de cet esprit qui est descendu, les flammes de feu sont sur lui, on est connectés ensemble, et quand on se met à chanter, si chacun de nous était connecté, c'est pas le chantre, c'est pas le groupe qui fait la différence, mais ça va pousser de l'assemblée. Tous ceux qui ont cette flamme en eux, en communion avec cet esprit, vont donc animer cela, vont alimenter cette communion, et parce qu'ils vont être dans l'esprit, ils vont pouvoir rejoindre les autres dans l'esprit. Et là, il y a une unité de l'esprit. Et c'est cette unité-là qu'il nous faut préserver et maintenir. Si nous ne sommes pas dans l'esprit, il n'y a pas d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle vient quand on est en communion et que, étant en communion, nous sommes la foi de Christ, nous sommes l'image de Christ. Et on peut agir, parler, le monde peut voir. C'est pour ça que tu peux me mettre le texte de Jean, qui est vraiment grand. Jésus, à la fin de sa mission, se met à prier et il demande l'unité. Jésus prie. Il nous a appris le Notre Père, et curieusement, il ne récite pas le Notre Père à ce moment-là. Il demande une chose à Dieu, c'est que nous soyons un. Jésus prie, et c'est très important pour lui, que nous soyons un. Et voyez ce qu'il dit ici, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On vient de chanter, je sais que tu m'aimes. Mais qu'ils soient parfaitement un. Là, je me dis, le Seigneur Jésus, il a la foi. Et il dit que Dieu l'exauce toujours. Je dis, wow, il a la foi. Il prie pour que nous ne soyons pas juste un, parfaitement un. Et sans cela, il n'y aura pas d'impact à l'évangile. Si nous ne sommes pas un, si nous ne devenons pas un seul esprit, si nous ne devenons pas vraiment unis, or il ne s'agit pas que des hommes et de la femme, mais l'ensemble du peuple de Dieu unis, si nous n'atteignons pas ce niveau-là, il dit, afin que le monde connaisse, afin que le monde voit, afin que le monde comprenne, afin que le monde ait la révélation que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour que le monde connaisse, il faut que nous atteignions ce niveau d'unité que nous ne vivons pas souvent. Je vous le dis la vérité, on ne va pas se raconter des histoires. Ce niveau-là dont il parle, si nous maintenions le niveau d'unité de l'esprit, que nous cherchions l'unité de l'esprit et que c'était maintenu toujours, pas juste une percée à un moment, ah là Dieu était là, là la gloire était là, on sent qu'il est là, on a conscience, on est touché, on est bouleversé, Dieu est là. Si on le vivait tout le temps, parce que nous étions connectés dans l'esprit et avec l'esprit de Dieu et les uns avec les autres, le monde connaîtrait. Il n'y aurait même pas besoin d'évangéliser. Il faut le faire. Mais il est en train de dire, parce que nous sommes parfaitement un, parce que nous trouvons ce niveau de communion, le monde va connaître. C'est mystique. Comment connaître? Nous sommes là dans une salle, on est un. Les chrétiens d'une même ville sont un. Ils sont en communion spirituellement, ils se connectent les uns aux autres. À un moment donné, ça ouvre une voie. Quand tu vas parler, ça va être le visage de Christ qui parle. Pourquoi? Parce que nous sommes unis. Ça va être la parole de Christ qui va être libérée parce qu'on est unis. Donc il y a un travail d'unité qui est indispensable pour qu'il y ait un impact au travail que nous faisons. Si on va évangéliser et que nous ne sommes pas un, il n'y a pas d'impact. Ouais, aidez-moi s'il vous plaît ce soir. C'est indispensable. Nous sommes là parce que nous voulons voir le royaume de Dieu avancer. Nous voulons voir des vies transformées, libérées, guéries. On veut que quand on témoigne, Dieu agisse. Il n'agit pas juste comme ceci, sans lien au fait qu'il dit, mais maintenez, faites tous vos efforts pour que l'unité de l'esprit soit maintenue par les liens de la paix. Qu'il y ait une telle unité que quand nous agissons, parce que c'est un principe spirituel, l'image de Christ est formée. Et c'est Christ qui agit. L'Église devient le corps de Christ. Elle se bouge parce que spirituellement, merci beaucoup, parce que spirituellement elle est unie, elle se bouge, elle se déploie quand elle fait des choses dans l'unité, dans l'accord. On s'est mis d'accord, on est en communion, on a saisi la pensée de l'Esprit et nous obéissons à l'Esprit et nous laissons conduire par l'Esprit. Quand c'est ainsi, nous adorons par l'Esprit, nous agissons, nous avons des relations dans l'Esprit. C'est pas humain, c'est pas juste, ah mais tiens, je l'aime bien ceci, mais je viens à l'église et en fait je fonctionne exactement comme dans l'entreprise ou ailleurs. J'apprécie que la dimension humaine de la personne. Si je ne la connais pas dans l'esprit, je suis pas uni dans l'esprit, l'impact spirituel. L'église est d'abord un être spirituel. Nous sommes d'abord des esprits. Et ces esprits, quand ils se connectent au Saint-Esprit, c'est déjà extraordinaire. Mais le Saint-Esprit descend, il aime descendre quand on est en communion. Ça, c'est les mystères. On est en communion, le Saint-Esprit descend. Quand il descend, il nous rend encore plus en communion. C'est de gloire en gloire. Il y a encore une mesure supplémentaire de la gloire de Dieu quand nos esprits sont connectés à lui et les uns aux autres. Et il nous faut apprendre. En ce moment, l'Église, le conseil d'Église, je suis en train de nous engager à discerner, à analyser, évaluer chacun de nos cultes pour savoir spirituellement ce qui se passe. On peut être dans notre âme et dire « Oh, ce culte, il était super » alors que spirituellement, il n'y a rien qui s'est passé. Je peux vous le dire. Il y a d'autres cultes, on a l'impression, oh là là, et en fait, spirituellement, celui qui est connecté spirituellement, il voit des choses que l'âme ne voit pas. Et du coup, il nous faut discerner et venir au culte rempli du Saint-Esprit. En fait, le nombre de gens qui viennent au culte pour être remplis, alors qu'ils devraient être remplis pour venir au culte. Ah, vous avez capté la pensée là. Si tu viens vide en disant, oh, ça va me faire du bien, j'espère que la louange va être bénie, j'espère que la parole va me bénir. Non, viens pour former le corps de Christ. Viens pour former le visage de Dieu. Viens pour former, sois connecté spirituellement. Si tu ne l'es pas, tu vas être comme une charge qui va empêcher le décollage. Parce que tu es dans l'âme et tu es dans la chair. Parce que tu écoutes ton âme et tu écoutes ta chair. Par contre, si tu te libères, c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, mais qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi ? L'esprit est dégagé pour pouvoir se connecter aux autres. Alléluia. Alléluia. Donc un couple qui est en communion, en unité d'esprit, ça va vouloir dire décider ensemble. Être d'accord sur les choses essentielles de cette vie. Prier ensemble, écouter le Seigneur. Il y a un problème, il y a un désaccord ? Écoutez le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est la pensée de Dieu qui doit primer, c'est l'unité de l'esprit qui doit primer sur l'unité même de vos âmes. Suivez-moi ce que je suis en train de dire là. C'est indispensable pour avoir une vraie maturité spirituelle. Est-ce que, quand il y a un désaccord, mais dans un couple, mais même dans une entreprise ou dans une équipe de direction, est-ce que c'est l'écoute du Saint-Esprit qui prévaut aux avis des uns et des autres ? Parce qu'on cherche l'unité dans l'esprit, de l'esprit. Quand on l'a, waouh ! Ça donne même plus de place à ta personnalité, ton identité, ton caractère. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord unis dans l'esprit. L'Église doit apprendre l'unité de l'esprit. Je voudrais dire que ce soir, le Seigneur nous demande de nous connecter spirituellement sans passer par un canal habituel. Ça, c'est ce que j'ai capté. On priait, on était quinzaine à prier dans la salle à côté. Et je voudrais dire que avant chaque culte, il y a une heure de prière. Et on a prié. La présence de Dieu était là, mais d'une force. J'ai été saisi, on a été saisi, c'était évident. Et le Seigneur nous dit, il y a un nouveau chemin pour vous. Il veut pas nous donner de fonctionner de manière habituelle. Eh bien, moi je pense que ce soir, le Seigneur nous attend. Dans une communion spirituelle. Par des êtres qui choisissent de s'oublier de ce que je pense, de ce que je ressens, je crucifie, je renonce, je libère l'esprit, je me connecte au Saint-Esprit, je me connecte aux autres. Ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Si nous l'apprenons, vous allez voir le poids spirituel de la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Les choses vont se faire, Dieu va parler, on va entendre, comprendre, saisir les choses spirituelles. Pourquoi ? Parce que nous sommes en communion. Plus nous sommes dans ce niveau de communion, plus la révélation vient, plus la gloire vient. Il dit, je leur ai donné la gloire. Ils sont un. Et quand ils sont parfaitement un, il y a une puissance, il y a une base qui permet à l'œuvre de Dieu de se faire et qui ne peut pas se faire autrement. C'est pourquoi, depuis que j'ai découvert cette clé, ce trésor qu'est l'unité de l'esprit, je suis prêt à sacrifier des tas de choses, mais pourvu que je garde l'unité de l'esprit au milieu de nous. Vous comprenez ? Quand on saisit ça, on est prêt à renoncer à son avis, à son confort, à sa... Toutes ces choses-là, t'oublie. Tout ce que je veux, et c'est même pas du compromis dans le sens « Ah, j'abandonne ça, puis j'ai peur de ce que les... » Non, je crains Dieu, je me connecte à lui, il me dit là « Abandonne, 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 et j'abandonne, et j'abandonne, et j'abandonne. » L'essentiel, c'est que l'unité soit maintenue. L'essentiel, c'est qu'on soit connecté dans l'esprit et que le flot, la mesure de la présence de Dieu puisse continuer à cause des esprits qui ont appris à se connecter. Donc, ce qui va vouloir dire que si l'ensemble des croyants sont connectés, ils vont discerner ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Ils vont discerner ce que le Saint-Esprit est en train de faire et ils vont suivre. La majorité de ceux qui seront connectés au Saint-Esprit vont suivre. Et finalement, la direction de l'Église ne vient pas d'un homme ou d'une équipe, elle vient de l'ensemble de ceux qui sont connectés au Saint-Esprit. Et ça engage tout le monde. Parce que des fois, on a des schémas d'église où il y a un pasteur qui décide de tout, et puis c'est ses états d'âme qui priment sur la direction de l'église, alors que c'est son état d'esprit, en communion avec les autres qui sont connectés au même esprit. On vit en ce moment des choses depuis plusieurs mois où c'est étonnant. On était en train de travailler, moi je vous donne juste un exemple, j'étais en train de travailler lundi et mardi avec Romain sur quelque chose, et puis entre-temps, Jasmine était en connexion avec Blaise Tommy, qui est un des ministères de notre église, enfin qui accompagne notre église, c'est un prophète. Et puis, ils prennent rendez-vous, et en général, il me dit, je veux bien avoir des rendez-vous avec toi et d'autres, et puis je vais écouter le Seigneur, je te délivre ce qu'il me dit, Et puis le reste, vous en faites, c'est vous qui pilotez, c'est vous qui dirigez, mais moi je joue mon rôle de soutien de cette église par l'écoute du Saint-Esprit et de délivrer la parole de Dieu. Eh bien, il a prophétisé exactement ce sur quoi nous étions en train de travailler. Le même esprit, l'esprit de Dieu, quand on est connecté à lui, va dire au moment... Ce qui fait que quand j'ai entendu, Jasmine a enregistré, elle me l'a envoyé, mais je dis, mais c'est extraordinaire. Il décrivait exactement un projet. Bon, donc je ne vais pas le spoiler, il faut qu'on prenne le temps avec l'équipe de direction, tout le reste, justement d'écouter le Saint-Esprit et d'être sûr que c'est là où il nous conduit. Mais c'est tellement évident qu'on dit, mais Dieu est avec nous. Nous sommes en unité d'esprit. Donc quand l'unité d'esprit est là, c'est le plus important. Tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas église. L'église est d'abord spirituelle. Elle doit être en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que nous avons de l'autorité spirituelle. J'ai pris le temps de poser ça. Est-ce que vous m'avez capté là? Si vous m'avez capté, secouez les mains comme ça, juste pour saisir que tout le monde a bien compris. On va aller plus loin. Alléluia. Maintenant, il y a un prix à l'unité. Efforcez-vous de maintenir. Il y a des efforts. Il y a une consécration. Il y a un travail. Il y a du renoncement. Et on va lire Philippiens 2. Rendez ma joie parfaite. On avait le parfaitement uni tout à l'heure de Jésus. Si l'Église est unie, Jésus, il est parfaitement dans la joie. Parce que là, c'est une plateforme pour que le royaume de Dieu soit manifesté. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Je dis, Paul, quand même! Une même pensée. Ça fait pensée unique un peu. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Parce que dans Romains 14, il nous dit presque pas l'inverse. Mais on a le droit d'avoir des pensées différentes. Par contre, elles seront en harmonie par le Saint-Esprit, chef d'orchestre. Et il dit, c'est possible d'avoir une même pensée, des mêmes désirs, une même projection, quelque chose qui est convergent. Parce que spirituellement, nous sommes en accord. Vous voyez ce qu'il dit? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais par humilité. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Et puis, après, il dit, ressemblez à Jésus, faites comme Jésus. Il était l'égal de Dieu, il a renoncé à ces choses, il s'est dépouillé. Voici le chemin pour l'unité de l'esprit. Il n'y a pas d'unité d'esprit sans humilité qui se dépouille pour élever les autres. Le chemin de l'unité de l'esprit, c'est que nous soyons capables de renoncer à nous-mêmes la fatigue. Il y a des tas de choses, des obstacles à l'unité qui sont là. Et je vais vous faire travailler tout à l'heure pour les lister, les obstacles à l'unité. D'accord ? De l'esprit. Mais quand on les a identifiés, ma part, ça peut être, je ne sais pas moi, c'est pas mon cas, parce que vraiment, ça le Seigneur m'a donné. Mais je sais que, par exemple, il y a des gens qui ont du mal avec leur langue. D'accord ? Quand ta langue n'est pas disciplinée, elle va être utilisée par le diable pour saper l'unité de l'esprit. La Bible nous dit, celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. Quand nos esprits sont connectés, qu'on ne veille pas à ce qui sort de notre bouche, on ne se laisse pas maîtriser par le Saint-Esprit pour que ce qui sorte, c'est des langues de feu qui disent la louange et la gloire de Dieu. Et si nos bouches sont utilisées et vont mal utilisées, pas remplies du Saint-Esprit, ça va être utilisé pour détruire l'unité. L'une des armes les plus puissantes du malin pour déstabiliser notre unité, c'est d'utiliser la langue des uns et des autres contre le corps de Christ. Contre les uns et les autres. Quand notre langue n'est pas maîtrisée, quand nous ne sommes pas dans une maturité, une humilité de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Quelqu'un qui est au-dessus de nous, on le célèbre. Quelqu'un qui est au-dessus de nous, on dit de bonnes choses sur lui. Quand bien même la situation dans laquelle elle est, c'est difficile. J'ai décidé de le regarder comme étant au-dessus de moi, donc forcément, ça déclenche en moi de la louange. Une parole qui édifie, une parole qui construit. Si tu ne fais pas attention et que même tu le regardes en égalité ou même au-dessus, tu vas mal parler. Le nombre de situations où on parle mal parce qu'on considère, on méprise l'autre et on ne le respecte pas à la hauteur de ce qu'il est. Le déshonneur vient. On utilise notre langue, elle est mal utilisée, elle vient détruire l'unité de l'esprit que nous devrions chérir comme un trésor au milieu de nous. La langue. Mais là, c'est l'humilité, le service. Je viens, je suis dans une attitude de service. Je vais vous donner des exemples de ce qui se vit en ce moment avec la pastorale de Montpellier. Et tout à l'heure, quand j'aurai fini de partager, on vivra un temps de déclaration de notre foi, de notre unité, mais aussi de repentance. Parce que notre Église, pendant des années, a été considérée comme une Église un peu orgueilleuse. Je schématise. Et ça fait un an et demi que je suis devenu le président de la pastorale CNEF de Montpellier. C'est le réseau des églises évangéliques sur Montpellier. Et il y a une logique d'unité qui a été enclenchée. Et je veux témoigner qu'il y a une unité spirituelle. Et déjà, ce n'est pas facile dans une église locale qui a la même théologie d'être dans l'unité de l'esprit. Imaginez le défi que c'est de trouver l'unité de l'esprit avec des chrétiens ou des pasteurs d'autres églises qui n'ont pas la même théologie. C'est pourquoi priez pour moi, s'il vous plaît. Mais depuis un an et demi, je vois, à la dernière réunion de la pastorale de Montpellier, des pasteurs qui sont en train d'être connectés et trouver l'unité de l'esprit. C'est une chose de les rassembler, c'est une chose de dire on va prier ensemble, mais que tu ne sens pas, ton esprit ne peut pas témoigner que là il y a le Saint-Esprit. On a vécu un temps de prière ici, je ne sais pas qui était là, en janvier, dans notre église. Eh bien, je sais qu'il y a eu un niveau de communion d'esprit. Qui c'est qui peut témoigner ça? Ok. Mais il est déjà arrivé que je participe à des réunions où il n'y avait pas de communion d'esprit. Et moi, ce qui m'intéresse, je vais travailler à ce qu'il y ait la communion d'esprit. Tant qu'on n'y est pas, je sais que si on essaye de faire des choses ensemble, on n'aura pas d'impact. Du coup, un an et demi que je travaille à ça. Il y a un des pasteurs qui me dit, Rodrigue, tu as la patience. J'ai la patience parce que j'ai cette vision-là. D'accord ? Imaginez, notre église qui travaille, c'est super. Mais entre églises, on se retrouve pour prier, mais on se retrouve aussi pour agir ensemble. Et ce qui se passe depuis un an et demi, eh bien, on a travaillé à identifier des critères pour ce qu'on appelait les œuvres majeures. C'est-à-dire, c'est des œuvres qui répondent à trois critères. Il faut que ce soit un projet mené par des chrétiens qui soit inter-église. C'est-à-dire que des chrétiens de plusieurs églises puissent être impliqués dedans. Premier critère. Le deuxième, c'est que ça réponde à un besoin en dehors des croyants. C'est-à-dire le public ciblé, c'est des non-croyants. Okay? Et troisièmement, c'est que ça correspond à un besoin que la ville de Montpellier ou les collectivités ont reconnu, disent, on a besoin de cela. On a besoin que quelque chose se passe. Le nombre de fois où les autorités ou les collègues de la mairie ou ailleurs me disent, mais est-ce que vous, en tant que communauté chrétienne, vous pourriez faire quelque chose pour le quartier qui est là, qui est un quartier prioritaire de la ville? C'est-à-dire qu'il y a des besoins où la ville dit, il faut que des associations se lèvent pour relever le défi de servir cette ville. Ils se tournent vers nous. Et moi, président de la pastorale, je rassemble les pasteurs en disant, et si nous travaillons ensemble pour reconnaître des projets qui existent déjà et qu'on les soutienne par la prière, qu'on les soutienne par des finances, qu'on les soutienne par des personnes qui vont venir travailler dans ces associations pour être ensemble ce visage de Christ dans cette ville. Des chrétiens de toutes les assemblées, donc évangéliques, qui peuvent travailler ensemble. Et moi, je crois que spirituellement, parce que des chrétiens vont venir travailler dans l'EPSO, des chrétiens d'autres églises vont venir travailler dans l'EPSO, parce qu'ils vont venir, cet acte-là de communion est une force spirituelle dans la ville. Pour le témoignage qu'on va avoir au niveau de la ville. Spirituellement, parce qu'il y a une ouverture, un travail, un désir d'être en unité d'esprit, la bénédiction et la faveur et la grâce de Dieu va se manifester. Donc, on a reconnu 5 œuvres majeures. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver sur la base de chrétiens qui sont unis dans l'esprit et qui le maintiennent et qui veillent à bien se parler, à se soutenir, qui veillent à vraiment développer cette culture et de la prière et de l'action ensemble. L'unité de l'esprit parce que on réalise que sans cette base, l'impact de notre travail ne sera pas grand. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y en a d'autres dans lesquels on va grandir ensemble pour apprendre à se mettre d'accord. Alors je me souviens aussi d'avoir pris le temps de déjeuner régulièrement avec ces pasteurs. Je les invite, ça a un coût, c'est du temps, c'est de l'argent, mais on ne peut pas dire qu'on cherche à être en accord sans passer du temps. Ça va coûter. Je peux vous dire, moi je suis pasteur ici, il y aurait de quoi faire à dire je consacre 100% de mon temps à être pasteur ici. Le Seigneur me dit, je te donne une mission de développer l'unité de l'esprit autour d'une vision en dehors des quatre murs de l'Église. Donc, eh bien, je prends du temps, j'invite, quand il faut demander pardon, je demande pardon. Je me souviens qu'un des pasteurs de la pastorale m'a posé des questions de pourquoi nous faisons ceci. Par exemple, il y a des églises où les femmes ne prêchent pas. Donc il me pose des questions, mais comment pouvez-vous ordonner les pasteurs femmes et les laisser prêcher? Il fallait qu'on s'explique. Et l'unité dans l'esprit ne veut pas dire l'uniformité. Ça veut dire accepter les différences. Vous savez, il y a d'autres églises ici qui ont des spécificités, des dons, un appel, une richesse que nous n'avons pas. Et il s'agit de reconnaître la richesse que Dieu nous a donnée et d'accueillir la richesse des autres. Et pourtant, on n'a pas les mêmes convictions. Il y a des églises charismatiques et des églises non charismatiques. Déjà, ça, c'est compliqué. Il y a des églises qui croient aux dons spirituels et d'autres qui n'y croient pas. Eh bien, moi, je vais aimer, accueillir et bénir les églises qui ne croient pas aux dons spirituels. Parce que ce qui importe, je peux vous dire, il y a des chrétiens dans des églises non charismatiques qui sont plus remplis du Saint-Esprit que des chrétiens dans des églises charismatiques. Ils ont plus de maturité pour se connecter spirituellement à d'autres que des chrétiens soi-disant remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont les dons de l'Esprit. Ce n'est pas le gage de la qualité ou de la maturité spirituelle. Il y a des tas d'églises qui ont une grande maturité spirituelle. Et dans cette ville, vous allez voir de plus en plus, et je vous invite à accorder de l'importance aux rencontres avec les autres chrétiens de la ville. Parce que si nous sommes en communion et que nous grandissons jusqu'à arriver à l'unité de l'Esprit, non seulement Dieu peut bénir des croyants qui se rassemblent ici et qui sont vraiment connectés au Saint-Esprit, mais quand c'est avec d'autres, il y a une grâce et une faveur particulière. Parce que du coup, le ciel s'ouvre pas que sur des croyants ou sur une communauté, mais ça va s'ouvrir sur la ville. Parce que chaque communauté a un mandat particulier sur une zone de cette ville. Personne n'a le mandat pour l'ensemble de la ville en disant « toi tout seul, tu vas gagner cette ville ». Non, ça passe par tous les croyants que Dieu connaît et qui sont remplis du Saint-Esprit et qui vont décider d'être connectés spirituellement. Alors maintenant, je vais vous faire travailler en disant quels sont les obstacles à l'accord, à l'unité de l'Esprit. Qu'est-ce qui empêche que notre assemblée vive, maintienne l'unité, pratique, déclenche l'unité de l'Esprit? Il y a des obstacles sur lesquels on va faire un choix de travail, un choix d'activation, de dire je vais lutter, je vais mettre tout en œuvre pour vraiment libérer le chemin de l'unité, libérer le chemin de l'accord. L'accord, vous savez, une guitare comme celle-ci, elle se désaccorde. C'est un instrument qui se désaccorde. Et il y a ici ce qu'on appelle un accordeur qui est utilisé pour ramener au 444, hein, c'est la mesure. C'est-à-dire quand ça s'est désaccordé, c'est à peut-être 380, et puis tu vas tourner pour revenir au 444. Et toutes les cordes qui sont différentes vont s'aligner au 444. La note va être juste, l'accord va être juste, parce que chaque corde est accordée sur le 444. Chaque corde a pour référence le Saint-Esprit. Chaque membre de l'Église a pour référence le Saint-Esprit. Le homo tubanum, le tous ensemble, d'un commun accord, d'un même esprit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous accorde. Dans nos vies, c'est obligé, on se désaccorde. C'est comme ça. Dès que le Saint-Esprit nous utilise, à un moment donné, on se désaccorde. Par le péché, la fatigue, il y a des tas de choses. Chacun se connecte, il dit « Saint-Esprit, accorde-moi ». Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Saint-Esprit, accorde-moi. Avec conviction, s'il vous plaît. 444. Tout le monde est accordé. Et quand le Saint-Esprit va jouer, il va y avoir un accord et une harmonie et une bénédiction, une mélodie qui va s'entendre dans cette ville. Mais comme moi, je crois que le Saint-Esprit n'aime pas jouer sur une guitare désaccordée. La référence, c'est lui. L'unité de l'Esprit, c'est parce qu'on est accordé à lui. Et après, on s'accorde les uns les autres. Alors, du coup, les réponses, s'il vous plaît, les obstacles à l'unité de l'Esprit au milieu de nous. La question est ouverte. Hein ? L'orgueil. Mais est-ce qu'on peut développer un peu ce qu'on entend par orgueil ? Se croire supérieur aux autres. Vouloir avoir raison. D'accord ? Ne pas apprécier la différence. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner dans un temps de connexion spirituelle? Qu'est-ce qui fait que quand on va pour louer le Seigneur et qu'on veut l'unité de l'esprit, on n'y arrive pas? Comment l'orgueil se manifeste? Le jugement. Mais concrètement, quelqu'un qui dit « Oh, ce soir, je suis fatigué. Oh, ce soir, j'ai pas envie. Oh, moi, j'aime pas ce chant. » Il y a des tas de raisonnements qui font que ton esprit ne s'active pas pour se connecter. L'important, ce n'est pas ce qui se passe, le chant ou pas le chant. C'est que tu vas être concentré pour dire « Je veux me connecter au Saint-Esprit pour que nous nous connections les uns aux autres. » Et du coup, quel que soit le chant, tu vas avoir une énergie, une passion, des cœurs qui sont connectés, qui cherchent Dieu au-delà de l'ambiance. C'est-à-dire, tu ne vas pas être un thermomètre, tu vas devenir un thermostat. Tu vas dire « Le niveau de chaleur que je veux dans cette salle, c'est ici. » Et j'active mon esprit pour me connecter au Saint-Esprit par rapport à quel que soit ce qui se passe. J'ai décidé de toucher le cœur de Dieu et je suis là en train d'activer. Quand spirituellement, je peux vous dire, même 10% de l'assemblée est là, ça donne une mesure qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on cherche. Je ne m'écoute pas dans ce que je vis. Je ne suis pas là dans des complexes. Je décide de me connecter au Saint-Esprit. Pour moi, en application à ce qu'on vit dans un temps de louange, l'orgueil, c'est s'écouter. Écouter son état d'âme, laisser son âme dominer. Oh, ce soir, j'ai pas envie. Oh, je suis dans la culpabilité. Oh, je suis dans la honte. Et puis mes pensées s'en vont. Si tu es venu ici dans la logique de te connecter au Saint-Esprit, toutes ces choses, tu vas les maîtriser, tu vas les tenir en bride. Et tu vas dire, aujourd'hui, j'ai décidé de me connecter au Saint-Esprit. Je peux vous dire, des gens qui se mettent à faire ça, l'atmosphère spirituelle monte rapidement. Et si tous les cultes, c'est ça qui se passe, parce qu'on comprend l'enjeu spirituel, si nous ne sommes pas connectés, eh bien, il y a l'impact que l'Église rassemblée devra avoir, eh bien, ne l'a pas. Du coup, je viens toujours préparé, rempli. Quand j'arrive là, sur la route, jusqu'à ce que mon esprit soit connecté. Vous savez, quand je parle en langue, au bout de 7, 8 minutes, 10 minutes, il y a quelque chose qui se déclenche. Quelqu'un peut témoigner de ça? Ok, donc je viens, je me parle en langue, je suis dans une activité, une ferveur, un zèle dans mon esprit, pour qu'à un moment donné, claque mon esprit, eh bien, se connecte au Saint-Esprit, et ainsi, je peux me connecter aux autres. Mais si je viens, puis que je me laisse porter, et puis on dit, oh là là, j'espère qu'ils vont bien conduire ce soir, ça va me faire du bien. On n'est pas dans l'esprit. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres obstacles? L'orgueil, très bien. Les autres? Comment? La jalousie. Oui, la jalousie. Ça, c'est un individu, quelqu'un qui n'a pas une identité qui est sécure. Il ne connaît pas que Dieu l'aime, il ne sait pas qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il est membre du corps de Christ, quelle que soit la part qu'il a. Il est membre. Du coup, il jalouse la part de quelqu'un d'autre, il jalouse des tas de choses et ça empêche la connexion. Deux, la jalousie, l'orgueil. Trois, là, l'incrédulité. On dit que l'incrédulité, c'est de dire à ton problème que ton Dieu est petit. La foi, c'est de dire à ton problème que ton Dieu est grand. C'est aussi simple que ça. L'incrédulité est liée au fait que ce que tu vois n'est pas la vérité et tu crois une chose qui est fausse. L'incrédulité est un frein à l'unité. Ça, c'est clair. Je voudrais vous suggérer un autre point, à moins qu'il y ait des propositions. Les murmures? Oui. Là, c'est la langue dont je parlais tout à l'heure. Motivation personnelle. Quelqu'un, attendez, on va se poser, parce qu'il ne s'agit pas juste de les dire. Quand tu n'es pas motivé par le corps, que tu ne comprends pas que tu fais partie d'un corps, et que quand tu n'es pas là, tu manques. Si vous me suivez là? Autre chose? La peur, oui. La peur de Dieu, la peur des autres. En fait, si on regarde les choses dans Dieu nous veut unis, si moi j'agis dans un raisonnement personnel, par peur, il y a des tas de choses qui me motivent à me tenir à l'écart, à ne pas me connecter, je suis en train de faire l'œuvre du diable. Comprenez-moi, nous faisons l'œuvre du diable. J'aimerais parler du non-pardon. Quand tu ne pardonnes pas, tu empêches l'unité de l'esprit. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. La Bible nous dit, Dieu retient. Et dans l'Ancien Testament, on a des enseignements terribles. Une personne pêche, une. Tout le peuple Empathie. Voyez comment Dieu accorde l'importance à une personne. Il avait dit que personne ne garde quelque chose pour lui. Tout ce que vous allez récupérer, vous allez le donner à Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, non, quand même, là, il y a de l'or, il y a un manteau, il le garde, une personne. Et pendant une semaine, ils sont restés bloqués dans leur marche parce qu'une personne, ils n'étaient pas unis. Le non-pardon, c'est s'autoriser d'aller à l'encontre de l'esprit, de l'unité de l'esprit. Parce que tu peux dire, j'ai raison, des tas de raisons qui justifient que tu ne pardonnes pas, mais tu ne calcules pas l'incidence que ça a sur le corps de Christ et l'unité de l'esprit. Oui, dans ton âme, tu peux avoir des tas de raisons et on peut t'accompagner, mais si tu considères l'importance de l'unité de l'esprit, tu vas faire le choix de renoncer à ton orgueil, de renoncer à l'incrédulité, de renoncer à la peur, de renoncer à tout ce dont, à la jalousie, toutes ces choses, tu vas renoncer parce que tu sais l'importance que Dieu accorde à l'unité. Et imaginez, quand on le fait, et puis qu'il y a cette maturité, eh bien, Dieu nous élève. Dieu répond à nos besoins. Dieu nous rencontre. Le ciel s'ouvre parce qu'on choisit de renoncer, on choisit l'unité, parce que c'est, du coup, l'image de Christ se forme de plus en plus, elle devient de plus en plus, on peut la discerner de plus en plus. Et quand Dieu la discerne fortement, le monde la discerne fortement. Et la grâce et la bénédiction viennent sur nos vies. Pourquoi ? Parce qu'on comprend les enjeux dans lesquels nous sommes. Alléluia. Et avant-dernier point, je vais parler de apprendre à se mettre d'accord passe par le fait d'écouter. Très souvent, nous ne sommes pas, on n'est apparemment pas d'accord parce qu'on ne s'écoute pas avec qualité. Si on prenait le temps d'écouter Dieu et de s'écouter les uns les autres, il y a un accord. Pour accorder, il faut écouter. Et quand tu n'as pas d'accordeur et que tu choisis d'accorder une guitare, il faut écouter. Et tu écoutes jusqu'à ce que tu te dis, waouh, là, c'est en train de s'accorder, on est vraiment juste. Et quand c'est juste, les cordes vibrent entre elles. Tu fais un la, la note de la, sur la corde de la. Quand elle est juste, la corde de la vibre toute seule. Alléluia. Ça, c'est vraiment important que nous le captions. L'écoute et l'acceptation de la différence. Je vais juste citer, tu peux me mettre Romains 14, après quoi on va poser un acte ce soir. Romains 14, il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ? Vous pouvez être unis avec des avis différents. Ce n'est pas parce que tu ne penses pas comme moi que nous ne pouvons pas garder l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est dans l'esprit. Mais dans notre âme, on peut avoir des goûts différents, on peut avoir des convictions différentes. Il suffit que chacun s'accueille dans la différence. Et là, c'est la maturité. Accueillir notre église qui a d'autres théologies, d'une autre manière de faire. Ils croient ce qu'ils croient, que Dieu les bénisse. Il suffit qu'ils agissent avec conviction. Ici, nous avons des convictions, nous agissons avec conviction. Et Dieu nous dit, dans vos différences, accueillez-vous. Restez unis dans l'esprit, même si vous avez dans vos âmes ou dans vos personnalités des choix différents et pouvoir avoir des opinions différentes. Je vais citer encore un événement dans la Bible qui est très, très fort dans la manière de gérer des désaccords ou des conflits. On est dans Actes 15, Paul et Barnabas reviennent à Antioche et puis ils entendent des gens qui viennent de Jérusalem dire qu'il faut circoncire les païens. C'est-à-dire, les non-juifs, il faut les circoncire. La pratique, une pratique juive. Du coup, je ne veux pas utiliser de gros mots, mais ils ont vécu un débat vif. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, dans l'église primitive, il y avait des moments où ils n'étaient pas d'accord. Par contre, ils voulaient maintenir l'unité de l'esprit. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent ? On n'est pas d'accord, on n'arrive pas à trouver un accord. Très bien, ce n'est pas grave. Envoyons du monde à Jérusalem pour que devant Jacques, Pierre, Jean et les anciens, on puisse discuter du sujet. Et quand ils ont discuté, ils se sont fâchés. Ils n'étaient pas d'accord. Et ils parlaient fort, et puis, etc. Ils ont eu, la Bible dit, des discussions vives. C'était chaud, quoi. Vous voyez ? À un moment donné, Pierre se lève, il dit... Et puis, conclusion... Je pense qu'il y a un texte, acte 15, voilà. Conclusion, il est dit ici, et ça je trouve ça extraordinaire, donc au verset 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Ça veut dire que tout le monde s'est mis au diapason au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas d'accord, Mais ce qui va nous importer, est-ce que nous sommes au diapason du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit sur ce sujet? J'écoute. Je développe une vie spirituelle. Ça oblige un couple à prier. Ça oblige une équipe de direction d'une église à prier. Ça oblige la prière. J'écoute le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, met la paix dans ton cœur, quand bien même ce n'est pas ta conviction. Quand bien même, sur la base, au départ, ton avis était opposé. Parce que tu t'es décentré, que tu as écouté le Saint-Esprit, un couple peut se mettre à dire, nous sommes arrivés sur ce sujet, le Saint-Esprit et nous, nous sommes mis d'accord. Nous et le Saint-Esprit, nous décidons que. Imaginez un couple qui dit ça. J'écoute le Seigneur, il m'a parlé, il t'a parlé, ok. On est ensemble, on est déjà passé, super. Peut-être au début, il avait dit non. Peut-être au début, il avait dit oui, il faut le faire. Puis à un moment donné, on a écouté, on s'est mis au diapason, 444, aïe, puis clac, on y est. Mais tiens, d'un coup, c'est harmonieux. Ça me fait penser à une autre scène dans la Bible, et c'est vraiment puissant. Sarah dit à son mari, écoute, tu as eu un enfant avec une femme, je me demande bien d'où est-ce qu'elle est venue, cette femme. Elle s'appelait Agar. Mais ce fils-là, ton fils, tu le chasses. Je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils Isaac. La Bible lui dit, Abraham, il s'est fâché. Il dit, mais comment? C'est mon fils. Non, tu le chasses. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il est parti écouter Dieu. 444. Le Seigneur lui a tiré les oreilles. Il dit, ta femme a raison. Ah! Mets-toi au diapason. Ma volonté, moi, Dieu, moi, le Saint-Esprit, ma volonté, c'est ça. Donc, sur ce coup-ci, vous allez vous aligner sur moi. Sarah a raison. Tu t'alignes sur elle. Et Abraham, il a fait quoi? Il a pris une cruche et du pain. Il a dit, bon, mon fils, Agar. Allez-vous-en. Mamma mia. Quand Jésus est Seigneur, quand le Saint-Esprit est Seigneur, on peut se mettre d'accord. Quand il est vraiment Seigneur et qu'on développe une culture de l'écouter réellement. J'écoute. Là, ils ont écouté. Le Saint-Esprit vient en premier. C'est le Seigneur Saint-Esprit qui est le maître de l'Église. Donc, l'idée, c'est on écoute le Seigneur, on s'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? On a des avis différents et il décide une chose qui est une révolution dans l'Église. Pas de circoncision pour les non-juifs. Alors que la circoncision pour les juifs, c'est quelque chose. Ils n'ont même pas imposé le sabbat. Ils n'ont pas dit, vous, les non-juifs, vous allez respecter le sabbat. Rien. Ils ont fait une révolution extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, vous leur demandez juste ça. Et ils ont listé. Et ils disent, nous sommes mis d'accord avec le Saint-Esprit. Vous voyez, ici il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges. Le Saint-Esprit est à nous. L'Église primitive veillait par-dessus tout à l'unité de l'Esprit. Il n'y avait pas plusieurs églises, il n'y avait pas plusieurs papes, il n'y avait pas d'indépendants. Tout le monde se soumettait au Saint-Esprit. C'est pourquoi il y avait la puissance de Dieu. Ok, on va finir en posant un acte particulier ce soir. En fait, je vous disais, quand on se connecte, on devient l'image de Jésus. Quand on est uni, spirituellement, l'image de Jésus se forme. Eh bien, je vous propose de faire un acte particulier. Je vais laisser... Oui. En fait, on a un puzzle. On a commandé un puzzle avec l'image de Jésus. Tu peux me mettre la dernière slide, s'il te plaît? Cette peinture, on l'a commandée, on a fait un puzzle avec 200 pièces pour former l'image de Jésus. Et pour ceux qui connaissent cette image, c'est une fille qui est montée au ciel et qui a vu Jésus et qui est descendue et qui l'a dessinée. Alors, je ne dis pas que Jésus ressemble à ça, vous voyez, c'est juste pour vous dire que à y être, j'ai pris une image de Jésus qui était assez forte. Tu sais, dans le livre « Le ciel est vraiment réel », il y a une fille de 5 ans qui monte au ciel et puis qui discute avec Jésus et rapporte ça et redescend et se souvient de son image, elle le dessine. Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on prenne cela avec le puzzle et que chacun de ceux qui sont ici ait une pièce qui constitue la pièce du puzzle qui vont remplir. Donc, ils vont remplir le puzzle pour former l'image ensemble. Quand nous sommes ensemble dans l'esprit, il y a une image que le ciel voit, il y a une image que les démons voient, il y a une image que ce monde voit. et la puissance de Dieu va se manifester. C'est un acte symbolique qui est fort. Ce soir, nous voulons déclarer que nous sommes ton corps. Ce soir, nous voulons déclarer que quand nous sommes unis dans l'esprit, il y a une puissance spirituelle, une force qui se déploie. Et Seigneur, c'est le chemin que tu nous demandes d'emprunter pour vraiment grandir au milieu de nous et devenir l'église que tu veux que nous soyons. Non seulement nous ici, mais aussi avec les autres églises. Et nous demandons ta grâce pour que nous sachions connecter spirituellement et préserver cette unité. Je veux bénir chacun dans son individualité, le fait qu'il soit un membre du corps qui est unique. Et dans cette unicité, nous décidons de nous mettre ensemble pour devenir ton corps et puis exercer le ministère que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen.